Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog wemusic.coach. Je suis Roman Buchta et dans ce nouveau podcast, vous allez découvrir Xavier Roger, un batteur d'exception. Xavier Roger a un sens exceptionnel du rythme et dans cette interview, il va nous expliquer comment développer un sens du rythme et comment apprendre efficacement un instrument de musique. Xavier.
Salut, bonjour.
Donc, merci beaucoup à toi de participer à cette interview sur l'apprentissage de la musique et dans ton cas de la batterie.
Oui.
Donc, je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce qu'on s'était rencontrés donc, lors d'un événement entre blogueurs et j'avais vraiment apprécié ton approche de l'apprentissage. Et pour te présenter donc, aux personnes qui vont regarder ou écouter cette interview, est-ce que tu peux nous dire, je crois que tu avais joué sur des grosses scènes, je crois que tu as joué aussi avec Ibrahim Alouf, Mathieu Chédid, Oxmo Puccino, qu'il y a eu même un album sur lequel tu as enregistré avec Ibrahim Alouf qui a gagné les Victoires de la Musique, l'album United. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le musicien que tu es et tes projets des quelques dernières années?
Je suis un musicien, enfin en tout cas un batteur qui est... multidiscipline, donc j'ai vraiment joué tout ce qui était possible et imaginable, donc de la pop, de la musique celtique, j'ai fait des opéras contemporains avec des setups, des batteries pas possibles, avec plein d'instruments bizarres autour, avec des partitions complètement folles. J'ai fait du jazz instrumental avec Ibrahim, j'ai fait du rock, j'ai fait de la musique électronique, j'ai quasiment tout joué dans tous les contextes possibles et imaginables, parce que c'est ce que je trouve intéressant, c'est pas de se limiter à un style en disant moi je fais que du black metal ou je fais que du swing, parce que je trouve qu'au finish, quand on s'enferme dans un style musical, en fait c'est comme ça qu'on ferme les portes en fait à ce qui est possible à faire au niveau de la musique. Donc ça c'est plutôt ma philosophie, c'est de pouvoir juste embrasser tout ce qui existe. Oui, j'ai joué. On va dire les trucs qui ont le plus tourné, parce que je vais pas prendre les projets qui étaient super mais qui n'ont pas décollé, parce que ça fait partie aussi du monde de la musique, il y a des super projets musicaux mais dans lesquels il n'y a pas beaucoup de concerts. Qu'est-ce que j'ai à mes tout débuts, en fait j'ai été assez connu parce que j'ai remplacé un batteur qui s'appelle Stéphane Galland, qui lui me remplace maintenant chez Ibrahim d'ailleurs, dans un groupe qui s'appelle Akamoun, qui est un groupe belge et qui est connu pour être un groupe de musique entre le rock et la musique hyper intellectuelle, très complexe en fait, à jouer avec plein de changements de rythmique, des mesures asymétriques, des choses vraiment très compliquées à jouer, mais qui est très chouette à écouter. Donc voilà, au début je me suis fait un peu connaître par ça parce que j'ai remplacé ce batteur-là et il était réputé irremplaçable. Parce que c'était super complexe quoi. Et donc moi j'ai commencé à jouer avec ce groupe-là plusieurs concerts. Et puis j'ai pas mal joué avec un autre groupe qui s'appelle le Wang Wei Quartet, qui est un groupe de musique donc avec guitare acoustique, saxophone, soprano, violoncelle, batterie, il n'y a pas de basse, où la musique est composée sur base de poèmes d'un poète chinois qui s'appelle Wang Wei. Donc toute la musique a été composée sur base de la poésie de ce poète chinois. On a fait pas mal de choses, on a été faire des projets en Thaïlande avec des danseuses, il y avait une danseuse qui venait de Norvège, de Finlande, d'Angleterre, de New York, de Malaisie. Donc on s'est retrouvés tous là-bas à Bangkok pour créer un projet, ça va se trouver sur le net, je sais plus où. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc j'ai fait un opéra contemporain qui s'appelle The Woman, qui était basé sur un roman de Roddy Doyle, c'est l'écrivain qui a fait Trainspotting, où on a fait une centaine de concerts dans l'Europe avec cet opéra-là. Donc, c'est un opéra avec des projections vidéo, je sais pas ça. J'avais mon propre projet Darwin Key aussi, où c'était de la musique électronique avec des projections vidéo et un peintre qui jouait de la musique, qui peignait en fait sur la musique en live. Il y avait toute une histoire qui était raconté graphiquement sur scène pendant qu'on jouait, qu'on improvisait la musique.
Vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très variées.
Ouais, voilà, il y en a encore beaucoup, mais effectivement, j'ai joué avec Douglas dans la session studio, avec Ibrahim. Avec Ibrahim, je crois qu'on a fait plus de 600 concerts. dans le monde entier, et puis dont le fameux album Illusion, hein, parce que tu dis United, United, c'est un morceau d'album.
Ah oui, l'album Illusion, oui.
Voilà, l'album Illusion, qui a eu les victoires de la musique, là. Mais quand l'album est sorti, j'ai arrêté les tournées avec Ibrahim, parce que en fait, ça devenait trop pour moi au niveau du nombre de concerts. Et donc, du coup, j'ai créé un blog pour donner des cours online, pour voilà, parce que forcément, j'ai arrêté les concerts, je devais faire autre chose. Et donc, j'ai créé le blog, et c'était parce que je faisais trop de concerts, en fait, que j'ai créé un blog sur la musique.
Ok. Et oui, parce que donc tu es l'auteur du blog Batteur Pro. Et donc dans ce blog, justement, tu partages ton expérience de la batterie, bien évidemment, des astuces. Et donc tu aides les personnes, tes visiteurs, à apprendre certains détails techniques, comme jouer plus vite ou apprendre différents types de riffs. Et aussi tu décomposes des breaks connus, des passages de batterie connus. Pour faciliter la prise en main par des personnes qui ont aucune idée de comment les jouer, mais qui aimeraient bien les jouer. Et toi, tu les aides à pouvoir prendre en main ces passages-là, n'est-ce pas?
Ouais, bah oui, disons que j'ai la chance de pouvoir transcrire la musique presque comme ça. J'entends un truc et je comprends tout tout de suite.
Ah ouais?
Donc voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que j'ai une manière d'écouter la musique qui est particulière. Mais donc quand je vois des breaks de batterie que je trouve intéressants, qui sortent de l'ordinaire, ben je me dis ok, ça c'est intéressant que j'explique ce break-là. C'est pas juste pour que les autres batteurs puissent le jouer, c'est aussi parce qu'il y a dans ce que je choisis. Il y a toujours une particularité au niveau de ce qui est à retranscrire au niveau de la pédagogie. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, un principe, un contexte dans le break que le batteur va jouer ou dans la rythmique qui est intéressant à travailler au niveau de la pédagogie. Par exemple, le batteur va jouer un pattern de sa main droite bien particulier qu'on ne retrouve que dans ce morceau-là et que donc on peut travailler de telle ou telle ou telle ou telle manière. C'est comme ça que je vais choisir ce que je retranscris. Parce que bon, il y a tellement de choses à retranscrire. La musique, il y en a des. Je ne sais même pas si on peut chiffrer encore aujourd'hui le nombre de minutes de musique qui existent. C'est pas infini forcément, parce que l'homme l'a créé, mais on arrive proche de l'infini, en tout cas, pour ce qui est possible de transcrire pour un humain, hein, je pense. Donc voilà.
Et pour rapport à toi, ton histoire de l'apprentissage de la batterie, tu partages sur ton blog justement que au bout de 10 ans de percussion classique, tu faisais pas forcément encore des breaks et qu'il y avait des choses comme ça qui étaient qui que tu ne jouais pas vraiment intuitivement. Et c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Oui, en
Et
fait, quand j'étais plus petit, parce que j'ai commencé en fait la batterie, enfin la batterie, la percussion, à 6 ans. Bon voilà, en fait, à l'époque, ça me passionnait pas vraiment, quoi. Je jouais des trucs, je jouais du xylophone, du marimba, ce genre de choses. Je me débrouillais relativement bien, mais je savais absolument pas jouer de batterie. C'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que si on me demandait de jouer de la batterie, enfin quand j'avais 15 ans, je me souviens, on mettait derrière une batterie, je vais jouer. Je savais pas quoi faire, quoi. Je savais pas comment jouer parce qu'en fait, dans l'approche classique, on n'apprend pas la logique de l'instrument. On apprend beaucoup. S'il y a des percussionnistes classiques qui regardent la vidéo, c'est beaucoup des morceaux de Agostini, qui est un percussionniste très connu parce qu'il a écrit beaucoup de méthodes de batterie. Qui sont utilisés dans le milieu classique, sauf que dans les faits, Agostini, ce n'est pas de la batterie comme les batteurs la jouent, c'est-à-dire c'est de la percussion. C'est juste une suite de notes, mais qui n'a pas de logique au niveau de la gestuelle de l'instrument. Il n'y a pas la sonorité, c'est pas en lien avec la musique. Voilà, il n'y a pas cette logique au niveau des doigtés, etc. C'est de la percussion classique, et par moments, il y a des choses dans lesquelles voilà, c'est une partition, mais qui n'a pas de sens en soi. Alors, bon, je jette un gros pavé dans la mare, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et au bout de je sais plus combien de méthodes, je ne savais pas faire une note sur l'instrument. Donc, je me dis, là, il y a quand même un problème. Alors que faut savoir que maintenant, on m'appelle dans le monde entier pour faire de la batterie. Donc, faut voir un peu le paradoxe entre les deux.
Et alors, comment tu as passé ce gap justement de prise en main? Quels sont on va dire, les déclencheurs clés qui t'ont permis de passer de j'ai aucune idée de comment jouer la note ou à je commence à avoir un moyen à prendre en main l'instrument?
Ben, j'ai été voir un batteur déjà spécialisé dans le jazz, quelqu'un qui avait vraiment une technique très poussée, etc. Et donc j'ai été voir cette personne-là avec qui j'ai pris des cours pendant, on va dire, combien, je crois, un an et demi ou 2 ans. Et donc ça a commencé à se débloquer. Mais le vrai truc qui a fait vraiment une grosse différence, c'est quand je me suis intéressé à la musique indienne et à la polyrythmie, en fait. Donc le fait de jouer un rythme en 3 contre une subdivision en 4, par exemple. Alors là, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il s'est passé un truc au niveau du mental et du ressenti de la musique. Le fait de ressentir, par exemple, où est le 1 dans une mesure tout en chantant un truc complètement différent, ben, ça a changé toute ma manière de jouer l'instrument parce qu'en fait, j'avais plus peur de retomber à côté du temps comme tous les batteurs font. Quand ils jouent un break, souvent le problème quand on commence, c'est qu'on ne sait pas où il faut terminer le break parce que le break de batterie hein, sur les tomes, parce que ben, on n'a pas, on ressent pas où arrive le premier temps instinctivement. Et donc ça, c'est un gros travail. Mais quand on passe par le travail mental, le chant, par le fait en fait de pouvoir ressentir ça physiquement dans le corps, en passant par le mental, c'est-à-dire en donnant la mesure, mais aussi en chantant des choses qui n'ont rien à voir avec la mesure dans laquelle on joue. Eh bien, il se passe un truc qui fait que, au bout d'un certain temps, on peut jouer n'importe quoi, on va toujours pouvoir dire le premier temps se trouve à cet endroit-là. Et donc, on peut plus se tromper. D'une certaine manière, quel que soit ce que je joue, je vais jamais me tromper. Parce que je serai toujours exactement où je me trouve. Quel que soit ce que je fais.
Et donc, alors, un an et demi avec un super prof très poussé en jazz, avec une bonne technique, ça t'a permis de débloquer, de comprendre, d'évoluer dans ta prise en main, vraiment de commencer à créer la logique et
C'était
ensuite
le
la polyrythmie.
début, voilà. Ouais, c'était le début de certains réflexes au niveau de la technique, voilà. Bon, j'ai découvert un doigté très connu dans le monde de la batterie qui s'appelle le paradiddle. C'est un doigté de 8 coups. Ça, j'ai découvert ça avec cette personne-là. Et j'ai découvert le swing. Hein, donc, j'ai commencé à apprendre le swing. Donc, ça, c'était le début. Mais le vrai déclic, c'était la
La
musique indienne.
polyrythmie.
Ouais.
Et
Ça, ouais.
donc, est-ce que tu conseillerais la polyrythmie pour des personnes, par exemple, qui jouent d'autres instruments, comme du piano, de la guitare, ou des chanteurs hip-hop, comme moi,
Alors,
pour pouvoir acquérir...
vraiment oui, à 200%.
Oui?
D'ailleurs, en fait, j'enseigne dans des petits groupes des cours de rythme, donc c'est juste vocal en fait, hein, qui permettent justement d'apprendre à ressentir ce feeling, ce premier temps, en fait, ce ressenti du temps dans lequel on va dire oui, mais telle personne il ressent la musique parce que c'est inné, c'est comme ça, et l'autre, moi je le ressens pas, c'est plus difficile. En fait, ça c'est complètement faux. Ça peut s'apprendre. Et
Je
c'est ce
partage
que.
tout à fait ta logique.
Voilà. Ouais. Donc, oui, franchement, à 200%, je recommande pour tous les instrumentistes et quel que soit le style de musique, que ce soit du classique, du piano, de la flûte, du chant hip-hop, quoi que ce soit, c'est indispensable, en fait, d'avoir ce ressenti du rythme plus instinctif que ce que les 3 quarts des musiciens peuvent avoir de manière innée. Parce que ça peut aider à lire la musique, déjà, parce que bah, quand on sait toujours où on se trouve dans la musique, dans la mesure, c'est beaucoup plus facile de savoir quand on lit bah, ce qui va se passer. C'est plus facile d'anticiper, mais c'est plus facile aussi de se libérer au niveau de la technique, parce que comme on ressent les rythmes, on n'est plus en train de se demander si ce qu'on fait c'est bon. On est juste en train de se dire, ok, là mes doigts doivent aller de telle manière, et on pense plus à, il y a plus ce stress de se dire, ok, est-ce que je suis bon dans la musique, comment ça se passe, est-ce que voilà, c'est juste, ça devient inné, ça devient naturel. Et ça, c'est une grosse libération.
Ça fait quelque chose en moins à gérer par la mémoire de
Exactement.
travail
Ouais,
dans le
c'est ça.
cerveau, ça
C'est
libère
une
de la place.
donnée. C'est ça, exactement. C'est une donnée en moins. Et donc, du coup, on peut donner de la place à autre chose.
Donc si des musiciens, par exemple des pianistes, des guitaristes ou des autres instruments, et même bien sûr des batteurs, ont envie de développer et de passer un gap au niveau de leur maîtrise du rythme, la polyrythmie, c'est vraiment la direction dans laquelle aller pour voir s'enrichir, passer des niveaux et passer vraiment au niveau au-dessus en fait. Et est-ce que
Tout à
tu donnes
fait.
des cours de polyrythmie, par exemple, en ligne, ce genre de choses, des coachings de groupe pour de la polyrythmie ou...
Alors, je ne le fais pas encore, mais c'est prévu. Voilà, c'est prévu parce que je fais ça dans je donne des stages de jazz, ce genre de choses. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je fais des stages de jazz, donc je fais que batterie, très souvent dans la semaine, on me demande de faire plusieurs ateliers. Donc, je prends tous les instrumentistes. Donc là, j'ai 40, 50 élèves en même temps. Et donc, ça se fait avec du clapping et du chant. dans lequel on va chanter des syllabes précises qui vont se décaler, etc. Enfin, il y a une multitude d'exercices, c'est quasiment infini en fait. Et donc, oui, c'est prévu que je fasse ce genre de choses, mais j'ai pas encore mis ça en place. Parce que là, pour l'instant, je fais juste la batterie. Mais
Ah ben
par contre, la méthode de batterie online que j'ai créée est basée sur ce principe-là.
parfois, on a un instinct en musique pour maîtriser, par exemple, justement, certains rythmes ou certains enchaînements d'accords. On a un instinct, mais parfois, comprendre ce qu'on fait, ça nous permet un moment de conscientiser pour le réintégrer, mais d'une manière plus élaborée, plus poussée. Donc, c'est comme ces moments où on le sortait consciemment et après, on le remet dans la mémoire de travail, comme on disait avant, pour s'en libérer. Mais on l'a sorti pour l'élaborer, pour le peaufiner avant de le re-rentrer. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, je sais pas, moi, de mon expérience, j'ai pas fonctionné comme ça, mais bon, j'ai peut-être un mode d'apprentissage qui est différent. Moi, j'ai fonctionné beaucoup par l'expérimentation, et par, on en parlait au tout début, par le jeu.
Oui.
C'est-à-dire, le fait de me confronter constamment à des choses qui étaient juste au-dessus du niveau que j'avais. C'est-à-dire de pas faire des choses qui étaient complètement impossibles, genre parce que c'était trop vite ou parce que c'était des mesures trop complexes, mais de faire juste ce que je ne savais pas faire. Sauf que j'ai tout le temps fait ça. J'ai tout le temps cherché à faire juste ce que je ne savais pas faire. Et donc en fait, d'une certaine manière, j'ai tout le temps progressé et encore aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je travaille des improvisations en septolet, donc voilà, c'est chacun son délire, hein, mais c'est plutôt comme ça que je mettrais le, quand tu disais apprendre quelque chose et puis revenir dedans, je pense pas de cette manière-là. Moi, je pense plutôt de apprendre quelque chose et une fois que ce truc-là a été plus ou moins acquis, qu'on sent que ça tourne plus ou moins, alors pour moi, il faut tout de suite essayer d'aller au niveau
Allez, au
qui est
niveau.
juste au-dessus. Ouais.
Oui. Je parlais du fait de conscientiser et oublier comme quand on maîtrise le rythme, on a pu gérer ça tout à l'heure. C'était pas tout à fait la même chose, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, justement, dans cette approche que tu as par le jeu, c'est tiens, je vais jouer le truc à peine au-dessus de ce que je suis capable de faire. Le challenge constant. Mais comment tu évalues ce qui est juste au-dessus? Parce que certaines personnes, peut-être, qui écoutent l'interview, pourraient se dire, ah, ben, je vais jouer le truc à peine. Je vais jouer ben, ce morceau un peu plus vite là, ou je vais jouer ce morceau-là parce qu'il est un peu plus complexe. Mais comment toi, tu évalues ce qui est juste au-dessus, mais pas trop au-dessus? Quelles astuces tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent pour bien choisir ça?
Il faut déjà essayer. La première chose, c'est que si au niveau du mental, on comprend strictement rien de ce qui se passe dans la musique, si on peut pas chanter ce qui se passe dans la musique, c'est déjà que c'est vraiment pas de notre niveau. Le premier truc, c'est de pouvoir le chanter et de ressentir la pulsation de ce qu'on va faire. Donc voilà, si on prend du hip-hop, généralement la pulsation c'est pas ça forcément qui sera compliqué, mais par exemple pour le hip-hop, si c'est du chant hip-hop, ça pourrait être le tempo ou le débit de parole. On peut se dire ah oui ce morceau-là au niveau du débit de parole, la diction, je sens que j'arriverai pas à le faire maintenant, mais si je travaille un tout petit peu. Par exemple, je peux faire ce morceau à du 100, mais sauf que le tempo du morceau, c'est 115. Et donc, 115, j'y arrive pas. Ça, c'est le juste au-dessus de ce que je peux faire. C'est-à-dire, être capable de jouer un morceau à telle vitesse, on sait le faire lentement, c'est relativement propre, mais on n'arrive pas à le faire à tempo. Ça, c'est le juste au-dessus.
Donc
Et
juste au-dessus
où?
en vitesse.
Alors, juste au-dessus en vitesse, ça, c'est une première chose. Juste au-dessus au niveau de la complexité des rythmes, c'est-à-dire si on se retrouve avec des morceaux par exemple dans lesquels voilà, si on maîtrise bien on va dire les croches 1 2 1 2 1 2, OK? Bah juste au-dessus ce serait de se dire on va pas faire des triolets parce que là les triolets on est dans une décomposition du rythme qui est différente de la croche, on est dans du ternaire, mais on va viser tout ce qui est en double croche plutôt que de faire 1 2 1 2, on va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Ça c'est le juste au-dessus parce qu'on a le double de débit, et donc on va travailler tout ce qui est dans cette zone-là. Si on maîtrise bien les doubles croches et qu'on fait bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, eh ben on va essayer de viser la triple. On va essayer de faire ce genre de choses. Okay, ça, c'est juste au-dessus. C'est toujours le palier Voilà, ça sert à rien de passer de 1, 2, 1, 2 à... J'exagère, mais l'extrême est trop grand. Il faut faire ce qui est juste au-dessus.
Il faut la marche entre les deux, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est juste de faire la marche qui est entre les deux.
Et donc,
Exactement.
je suppose que quand tu étais appelé à jouer des morceaux très complexes, s'il y avait plusieurs marches, toi, tu t'arrangeais pour dire, OK, quelles sont les différentes marches? Et après, prendre d'abord la marche juste au-dessus, puis qu'on acquise la marche juste au-dessus, pour monter l'escalier qui t'amène là où tu devais jouer, pour pouvoir jouer ce que tu devais jouer, par exemple.
Ouais,
Est-ce
ouais,
que,
ouais.
est-ce qu'il y a cette approche-là?
Y avait cette approche-là, mais avant qu'on m'appelle pour jouer des morceaux complexes, j'étais déjà capable de jouer,
Bien
par
sûr.
exemple, de jouer ou d'improviser en 7-8. Hein, je
Ouais.
fais en 7-8 ou en 9-8. Je prends ce genre de choses. Parce que je m'étais entraîné à faire ça. Donc, je me suis d'abord entraîné à jouer et improviser en 4-4. Et puis, une fois que ça allait plus ou moins, je dis plus ou moins parce que je m'entraîne encore aujourd'hui à improviser en 4-4. Parce que on peut toujours pousser dans chaque contexte, on peut toujours aller plus loin. Okay?
Oui, tout à l'heure, voilà. Non, mille
Donc
pour cent.
voilà, mais donc une fois que je commence à maîtriser le 4-4 et j'étais à l'aise dans le 4-4, eh bien je me suis intéressé au 5, au 5-8 en fait. Et puis au 5-8 et au 7-8, j'ai fait
Est-ce
ces
que
deux
tu peux
trucs-là.
juste rappeler aux personnes qui nous écoutent le 4-4, le 5-4, le 7-8,
Donc
le
le
7-9?
4-4, c'est 4 temps par mesure. Okay? Donc 1, 2, 3, 4. Tout simplement, quand on met le bip du métronome, ben ça correspond à un temps. Le 5-8, eh bien, donc c'est 5 croches, ça veut dire que quand on met la barre 8, ça veut dire qu'on double la vitesse du tempo, donc 1-1-1-1-1, okay, plutôt que de faire 1-1-1, ça c'est le bip de base. Quand on met le 5-8, ça veut dire que ça va aller deux fois plus vite, 1-1-1-1-1, et il y a 5 pulsations pour faire une mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ça, c'est du 5, 8, 7, 8, 7 pulsations dans la mesure, 9, 8, etc., etc.
Donc c'est des mesures, au lieu de faire des noirs, c'est des croches, la base,
C'est
l'unité,
ça,
et
ouais.
après il y a un certain nombre d'unités qui est joué. Donc 5 unités ou 7 unités sur les
Sur
8
des
qui
croches.
composent la mesure.
C'est ça. Donc, si on faisait du 5, 4, plutôt que de faire 1, 2, 3, 4, ben, on va faire 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, l'exemple le plus simple. Ok. Alors, comment, de quelle autre façon tu as appliqué dans ton apprentissage, toi, de la batterie, ce principe de toujours aller jouer la chose qui est à peine plus compliquée, la chose juste au-dessus de ce que tu gères aujourd'hui?
Mais donc, il faut savoir que quand on change, par exemple, si je veux essayer de jouer dans un 5-8 et que je suis relativement à l'aise dans du 4-4, quand on change de mesure, on doit presque reprendre notre apprentissage comme si on venait de débuter le 4-4. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de jouer des choses qui ne sont pas rapides sur du 5-8. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, des patterns tout simples en
Ok.
5-8. Okay? Parce
Donc
qu'on
il faut.
change la mesure et donc à chaque changement de mesure, on doit presque réapprendre depuis le début, ok, comment ça marche, quel doigté je peux utiliser, parce que bah, ça tombe des fois à l'envers, comme il y a un demi-temps en moins, on se retrouve à l'envers, etc. Donc il faut reprendre un peu comme quand on faisait au début. Sauf que, évidemment, quand on reprend le 5-8 et qu'on reprend au début, c'est-à-dire on joue des croches, on joue des choses qui sont plus lentes, la progression va être plus rapide dans l'apprentissage du 5-8, parce qu'on aura déjà fait tout un tas d'étapes dans le 4-4.
Donc quand tu parles de mesure, c'est toujours de type de mesure, hein, de structure 5, 8, 7, 8. C'est ça
C'est
quand
ça.
tu dis mesure. Et
Oui,
donc
c'est
ce que
ça.
tu nous expliques, pour être bien sûr que je comprenne bien
Oui.
et que les auditeurs aussi se fassent une idée claire, c'est que quand on change de pattern, par exemple on était en 4-4 et d'un coup tu vas commencer le 5-4, il faut accepter de recommencer à jouer très lentement.
C'est ça, à chaque fois.
Mais après, on peut se rassurer parce que la progression sera plus rapide. Parce que quelque part, il y a des choses qui sont déjà installées dans les circuits neuronaux. Mais c'est comme un nouveau puzzle où on a quelque chose de nouveau, on doit accepter de recommencer au tout début. Ça fait partie du processus.
C'est ça,
Si tu
on
n'acceptes
doit
pas.
accepter ça, de recommencer à chaque fois au début, mais sauf que si on fait ça, la progression, elle est exponentielle en fait.
Mais ça va faire.
Voilà, exactement.
J'ai l'impression que c'est une erreur souvent qu'on retrouve chez beaucoup de musiciens. Quand on prend en main quelque chose de plus complexe ou de nouveau, on exige un peu quand même de pouvoir déjà le jouer vite, Parce qu'on a quand même des années derrière la cravate de pratique.
Oui, tout à fait, en fait. À 200%, parce que ce que je vois souvent dans les quand je coach des gens ou quand je fais justement des stages, en fait, il y a beaucoup de batteurs, c'est que les trois quarts des élèves, en fait, jouent un nouvel exercice dans ce que je propose. Souvent, je propose des choses qui sont compliquées. Je fais exprès, justement, pour mettre les gens au taquet dans quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que, voilà, comme tu as compris, j'aime bien aller juste au palier du dessus. Pour moi, refaire sans cesse les mêmes choses, comme disait Einstein, c'est la folie, hein. C'est-à-dire qu'en faisant tout le temps la même chose, on pourra jamais
En
progresser.
espérant un résultat différent.
Voilà,
C'est ça qui,
exactement.
c'est la
En
phrase
espérant...
précise. J'ai pas
Voilà.
plus
Et donc, en fait,
précise.
je mets toujours les gens en challenge. Mais ce que je constate toujours, c'est que c'est quasiment à... Alors, je vais faire mon belge parce que je suis belge. À 95%, okay, à
Si ça veut dire à
95%,
80, ouais.
voilà, à 95%, les élèves jouent l'exercice trop vite. Mais c'est systématique. Systématique. Parce qu'ils veulent essayer, ils veulent tout de suite avoir un résultat. Ils font, ah, j'ai compris! Et en fait, les trois quarts des gens ont l'impression d'avoir compris la nouveauté, sauf que dans les faits, ils n'ont pas vraiment compris le mouvement. Il y a toujours un petit défaut qui va s'installer dans le mouvement, dans le son. Ça ne va pas être super en place. Il va y avoir tel ou tel petit truc, le grain de poussière qui va venir se mettre dans le rouage. Et ce qui fait que ce qu'on va apprendre ne va pas sonner comme c'était espéré à la base, comme c'est montré par la personne, ou comme ça devrait, entre guillemets, sonner pour que ça sonne vraiment bien. Et donc, après, il y a la frustration qui s'installe parce que le truc, ça sonne pas comme ce qu'on s'était imaginé, parce qu'on a voulu le faire vite tout de suite. Et donc, du coup, ce truc-là, eh ben, on le met à la poubelle. Parce que ça sonne, c'est sympa, mais ça sonne pas vraiment aussi bien que le truc qu'on savait faire avant, qui était tout simple. Ça, je le vois, mais c'est presque à chaque fois. Presque à chaque fois. Alors que si on prend juste le temps de comprendre, c'est-à-dire c'est 5 minutes de plus en fait, hein, c'est juste ça, 5 minutes de plus à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, de comprendre ce truc-là, savoir ok comment ça se place, comment je le ressens physiquement, est-ce que je le sens bien par rapport à la musique? Non, je le sens pas bien. Ok, je vais ralentir le morceau. Je le sens pas encore bien. Je vais encore ralentir pour que tout ça soit très précis. Et j'insiste sur le très précis, parce que là je parle de batterie, mais ça marche de nouveau pour le hip-hop, pour le piano classique, pour tout.
Oui, pour tous les instruments, bien sûr.
Voilà, et en fait c'est là où on entend la différence entre les musiciens qui sont bons mais dans lesquels c'est sympa, et puis vraiment ceux dans lesquels il y a un truc où on fait waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand ça fait waouh, c'est parce qu'il y a justement cette précision dans la musique. Et la précision, elle est à la fois dans le placement rythmique, mais aussi dans l'implication du musicien, dans la manière dont le musicien va pouvoir jouer avec ses tripes, en fait. Et un musicien qui va jouer avec ses tripes et où ce ne sera pas précis, ça va pas sonner génial parce que ça va, voilà, la musique, je sais pas pourquoi, mais on est beaucoup plus réceptif au niveau de la musique en tant qu'être humain quand c'est précis, quand ça groove, quoi, quand il y a l'espèce de magie au niveau de la musique. Mais à l'inverse, si on prend quelqu'un qui est hyper précis, hyper calculé et qui ne joue pas avec ses tripes, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, c'est précis, mais c'est mécanique, ça joue pas, ça vit pas, quoi. En fait, il faut trouver la balance entre les deux. Et donc, bah, pour ça, il faut passer par cette fameuse étape où on va tout ralentir, tout remettre à zéro, pour justement pouvoir s'approprier les choses, physiquement, mentalement, pour être à l'aise en fait avec les choses, justement pas mécanique hyper précis, pas pour le piano mais pour la batterie, pour tout, hein. Et si on passe par ça, après ça devient beaucoup plus facile de se libérer justement en se disant ok, je vais jouer le truc et ça va faire boah, le truc va sortir comme ça va être juste de l'énergie en fait. On pense même plus à la technique où est-ce qu'on fait.
Excellent. Et tu as justement dit quelquefois quand tu sens, là tu sens que c'est trop vite, tu sens que c'est trop vite. C'est-à-dire toi, dans ton corps, tu sens que là non, là je devrais encore ralentir pour trahir ce passage, la
C'est
vitesse
ça.
à laquelle j'essaie d'exécuter. Donc comment tu pourrais nous expliquer ce tu sens? Tu sens quoi? Tu sens ton ventre qui se contracte? Tu sens
Bah,
que...
je sens des tensions, soit dans les mains. Voilà, bah, un des grands conseils que je donne tout le temps, au niveau de la batterie, mais de nouveau, c'est valable pour tous les instruments, c'est qu'il doit, dans l'idéal, y avoir zéro tension physique et mentale. C'est-à-dire que quand on
Et
est en train de
mental.
jouer, et mental, c'est-à-dire que si ce qu'on est en train de jouer, c'est stressant, pourquoi? Bah parce qu'on comprend pas l'harmonie, ou parce que rythmiquement, c'est super dur à placer, parce qu'on n'a pas acquis ce truc-là. Donc de nouveau, si c'est très dur à placer rythmiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va le travailler très, 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 très lentement. C'est toujours le même, hein. Plus le rythme va être complexe, plus on va devoir le faire lentement, plus l'harmonie va être complexe, plus on va devoir le faire très lentement pour comprendre, bah voilà, la suite de notes, elle fonctionne comme ça, et ingérer ça pour que ce soit naturel. Okay. Donc, dès que je sens une tension, un malaise, en fait, dès que je sens un malaise dans ma physiologie, mais dans mon mental aussi, dès que je sens que je suis pas à l'aise avec ça, je ne vais pas dire, ah, ça c'est trop dur pour moi, je ne veux pas de ce truc-là, mais je vais plutôt me dire, ok, là je sens un malaise, eh bien, je dois juste avoir l'humilité de me dire que ce truc-là, je dois simplement ralentir. Tout simplement. Et analyser ce qui se passe. C'est-à-dire, en ralentissant très fort, on peut analyser, OK, j'ai un malaise parce que, ah, ça peut être, bah, parce que je perds ma baguette. J'ai un malaise parce que, ah, bah, mon poignet, là, sur les touches du piano, c'est un peu trop raide. Bon, je vais essayer de travailler la fluidité du mouvement de mon poignet. J'ai un malaise parce que, bah, ah, bah, dans l'articulation de mon truc au saxophone, telle note dans tel passage, là, je dois pincer mes lèvres, et en fait, là, enfin, je sais pas, enfin, je joue pas de saxophone, mais ça peut se retrouver dans ce genre de choses.
Donc identifier les points de malaise
Voilà.
et les travailler séparément.
C'est ça, les travailler lentement, en se disant, OK,
Lentement.
là, il y a un truc, lentement, voilà, ça doit toujours être un tout, on peut pas travailler les choses de manière séparée. Sinon, on travaille note par note, mais note par note, tout le monde peut tout jouer. Hein, si je demande à un enfant de jouer un do, il va jouer le do. Par contre, si je demande de jouer do, il saura pas le faire. Donc, on doit toujours travailler les choses dans la globalité. On doit toujours travailler tout en même temps, mais en ayant un point d'attention sur la globalité des choses pour que ce soit fluide, en fait. Enfin, pour tout ce qu'on fait, hein, pour tout ce qu'on fait dans les instruments. On peut pas travailler note par note. On peut pas travailler un mouvement. On travaille toujours l'ensemble des mouvements de manière en intégrant tout pour que tout soit cohérent, en fait. Si on travaille tout séparément, eh bien, en fait, après, quand on va se remettre à jouer sur l'instrument, il y a un truc qui fonctionne pas. Parce que dans les faits, quand on joue de la musique, on fait toujours tout en même temps.
Et justement, pour après, jouer tout en même temps. Par exemple, je pense au pianiste avec l'indépendance des mains, c'est souvent un problème qui revient, ou même certains des guitaristes, il y a une mauvaise synchronisation. Donc, toi, quel conseil tu donnerais pour justement arriver à mieux jouer deux choses différentes en même temps?
Dans les faits, en fait, ce ne sont pas deux choses différentes. Je prends l'exemple de la batterie dans laquelle on a quatre choses différentes, voire des fois plus parce qu'il y a les sonorités. Mais on a quatre membres, okay? Main droite, main gauche, pied droit pour la grosse caisse, c'est Charleston. Et à la batterie, on doit gérer les quatre de manière indépendante. Pour le piano, bah, on a les 10 doigts. Et souvent, on a plusieurs voix. Si on prend du Bach, par exemple, on va avoir plusieurs voix dans la même main, avec plusieurs mélodies qui sont jouées à différents niveaux sonores, etc. Donc, je parle de ce qui est à plus haut niveau, au niveau de la musique. Bon, dans les faits, en fait, il faut voir ça comme il faut se représenter, en fait, les partitions d'un orgue de Barbarie. Donc, en fait, un papier à musique dans lequel il y a des trous, et quant la partition va défiler et dans lequel on va tomber à l'endroit où il y a X notes qui sont censées tomber ensemble, je pense pour le piano, donc c'est pareil pour la batterie, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il y a 3 doigts qui vont jouer en même temps. Et puis celui-là, par exemple. Et puis, en fait, le truc d'après, c'est pas ces 3 doigts-là, mais c'est ces 2 si qui vont s'enchaîner. Donc, en fait, on va travailler l'enchaînement de 2 mouvements, okay, qui sont en fait une seule et même chose. Et c'est comme ça qu'on peut faire des choses simultanées ou qui se superposent.
Ah, au lieu de conceptualiser main gauche, main droite séparément, tu conceptualises temps par temps de la musique, et
Exactement.
pour un temps, il y a un ensemble de doigts répartis sur deux mains, par exemple.
Exactement, ouais.
Excellent, c'est quelque chose que j'ai encore jamais entendu expliciter comme ça, hein. Donc c'est vraiment très intéressant.
Ben, c'est-à-dire, au niveau de la batterie, si je prends, je vais prendre par exemple alors, je sais pas si on le voit, ben, je vais taper là quelque part. Je vais faire ça. Et puis, ici, j'ai envie de faire, Okay. Bon, là, on a l'impression que je fais des trucs dans lesquels lui fait 1, 1, 1, et lui fait ta ta da da ta da da. papier. Mais qu'est-ce qui se passe dans les faits? Eh bien, dans les faits, je fais les deux en même temps. Et puis, en fait, il y a après. Et puis. Etc. etc. Donc, en fait, c'est les deux mouvements qui sont synchronisés. Et puis, lui joue tout seul. Lui joue tout seul. C'est-à-dire, lui, il se repose, il ne fait plus rien. Et c'est en accélérant, en fait, cette séquence de mouvements qu'on peut faire. Ok, bon là c'est un exemple très simple. Après, je peux faire ça, je peux jouer ce truc-là et faire un truc en 5 à gauche, ça me pose pas de problème. Et un truc en 3 au pied. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en fait les mouvements de manière séquentielle.
Et on peut appliquer ça par exemple à quelqu'un qui chante, je pense par exemple à moi qui chante du hip-hop en jouant de la guitare, et il y a des moments
Ah, mais carrément.
c'est pas forcément le même rythme parce que le hip-hop c'est quand même des flows avec plein de rythmes, et donc la guitare, je joue des arpèges en fait, des petites mélodies qui pourraient ressembler à du classique en fait, donc ça fait un style assez particulier. Et donc, est-ce que si j'applique ta méthode, ça serait, je m'arrête un moment pour voir vraiment. Quelle syllabe ou quelle respiration tombe sur quelle configuration, main gauche, main droite, en même temps? Et je
Exactement.
travaillerai ce passage-là. C'est super marrant parce que si on prend comment fonctionne le cerveau, qui crée des circuits de neurones selon ce qu'on répète pour nous permettre d'effectuer plus facilement une action physique ou mentale, là, tu conseilles, toi, de créer l'association de neurones pour faire la séquence complète avec tout l'ensemble et de penser comme ça.
Exactement.
Et c'est super pertinent, en fait, comme approche, parce que oui, dans tous les cas, ce qu'on répète, notre cerveau va nous permettre de le faire plus facilement, plus efficacement, plus subtilement avec le temps. Et donc, si on pense ah ben là, je dis cette syllabe en jouant ces deux doigts-là, puis en faisant ce changement en même temps ici, si je m'entraîne à faire tout le temps, forcément, à un moment, j'arriverai à le faire mieux. C'est juste de le penser différemment. Donc, toi, ton
Exactement.
hack, c'est de penser séquence par séquence et de prendre l'ensemble des éléments qui sont présents à un temps donné, et de le travailler celui-là et l'ensemble des éléments qui sont présents le temps d'après, et travailler cet enchaînement entre.
Exactement, ouais. Et
Ex
là, ouais. Et donc, on peut. Avant, je jouais du vibraphone. Au niveau du vibraphone, on n'a pas forcément de synchronisation de mouvement. Bien, bon, de temps en temps, il y a des notes qui tombent ensemble, mais c'est pas forcément difficile de faire. Là, il y a deux notes ensemble, là, il n'y en a qu'une. C'est juste les deux mains ensemble ou une. Mais pour le vibraphone, par exemple, ce qui est comparable au piano, sauf que le vibraphone, on le fait avec deux baguettes, le piano, on fait avec les doigts. Pour un trait, eh bien, ce que je faisais, c'est que je travaillais. Admettons que je faisais un trait qui durait 8 ans, j'en sais rien, hein, et que les 5 premiers temps, ça allait. Eh bien, je jouais mes 5 premiers temps, et puis je travaillais l'enchaînement du cinquième avec le sixième temps, qui me posait problème, parce qu'il y avait, je sais pas, un écart plus important ou un mouvement. On va dire plus difficile à jouer dans la suite de notes. Et une fois que j'avais ce truc entre le cinquième et le sixième temps, c'est-à-dire une fois que j'avais la charnière de ce qui me posait problème, je retravaillais tout depuis le début. C'est-à-dire temps 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller vers le septième temps. Pour travailler un trait, par exemple.
Ok, oui. Tu identifies l'endroit où il y a la difficulté, là
Oui.
où tu n'es pas à l'aise. Et comme tu disais tout à l'heure, le marqueur, c'est je suis pas à l'aise dans mon corps ou dans ma tête, j'ai une tension physique ou mentale, ou les choses vont un peu trop vite, j'arrive pas à les conceptualiser.
C'est
Donc là,
ça.
c'est que faut ralentir, identifier l'endroit où ça bug, et travailler juste ce passage-là, et après, retravailler l'ensemble en incrustant ce passage-là, et voir si ça passe, et ensuite aller plus loin. Ça
Voilà.
serait comme ça pour un trait. T'as la
C'est
méthode
ça.
que je conseille. Et
Exactement,
dis-moi,
ouais.
si les musiciens, par exemple, ont des problèmes pour mémoriser des partitions, par exemple, je pense à des musiciens de batterie, mais aussi des pianistes, des guitaristes et autres, quand ils ont du mal à mémoriser, est-ce que tu as déjà croisé des gens qui ont du mal à mémoriser? Parce que mon intuition me dit que toi, c'est pas trop ton cas, puisque tu disais au début que tu entends
Non.
quelque chose, tu arrives tout de suite à. Ok, il y a 67 choses à instaurer de cette manière-là, hein, et tu les retranscris. Mais est-ce que tu as déjà croisé des gens qui avaient ce type de problème, de musiciens qui avaient de la musicalité, des bonnes choses, mais qui avaient du mal à retenir l'ensemble d'une partition, par exemple?
Alors, oui, c'est très fréquent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était plutôt, non pas un problème de mémorisation, mais un problème d'attention, dans le sens où ce que moi je fais, depuis très longtemps, et de nouveau c'est un entraînement, c'est que dès que j'entends de la musique, quel que soit ce que j'entends, eh bien, j'analyse en fait ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est en quelle mesure? Ça se passe comment? La mélodie, c'est quoi? Je la chante en fait tout de suite. C'est un entraînement en fait quotidien dans tout ce que j'entends. Et
Tu
quand.
pratiques tout le temps.
C'est-à-dire, oui, même quand j'ai pas d'instrument, je pratique. Parce que quand j'entends de la musique, ben, je suis en train d'essayer de mémoriser ce qui se passe. Je rechante la mélodie, j'analyse la ligne de basse. Et en fait, d'une certaine manière, je travaille tout le temps, mais je travaille jamais. Ça qui est beau là-dedans, c'est que je suis jamais en train de travailler en me disant oh, je vais mettre derrière le bureau pour travailler ceci ou cela. Non, je suis juste en train de vivre la musique, je suis en train de l'écouter. Et la musique, c'est ça se fait au quotidien. Quand j'écoute quelque chose, je l'écoute pas en me disant ah, oh, c'est beau. Non, j'écoute en me disant tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est chouette, il se passe ça, il se passe tel truc. Ah, tiens, il y a telle interaction entre la guitare. Je me pose tout le temps des questions, mais c'est un jeu, en fait, pour moi. C'est pas un exercice, c'est juste un jeu. Et donc, pour mémoriser des choses, ce que je faisais quand je vais mémoriser du vibraphone, par exemple, je prends du vibraphone parce que je jouais des trucs, enfin, j'ai joué du Bernstein, j'ai joué. J'avais fait West Side Story à l'époque au vibra, avant que je joue de la batterie. Bon, bah, tous ces trucs-là, en fait, au vibra, il y a un truc. Quand on apprend le vibraphone, c'est que c'est extrêmement difficile de lire une partition vibraphone et de jouer en même temps. Parce que quand on apprend, ben on doit regarder où on tape sur le clavier, et c'est un peu pareil pour la guitare, je pense. C'est très compliqué de savoir lire la partition, d'avoir les yeux sur la partition et de taper au bon endroit. Donc j'étais presque obligé de retenir par cœur si je voulais jouer ce que je faisais, parce que ça allait très vite, et donc je pouvais pas me référencer à la partition. Donc pour ça, ben, en fait, le truc que je faisais, c'est que je mémorisais tout depuis le début, à chaque fois, en fait. Et quand je me trompais, je me disais, ah, c'est pas bon, je reprenais au début. C'est-à-dire, j'avais la même logique que ce que j'expliquais tout à l'heure avec les temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Quand je tombais sur un passage où j'oubliais ce qui se passait, eh ben, je travaillais le passage charnière pour me dire, ah oui, il se passe ça. C'est-à-dire que d'abord, je mémorisais la mélodie. Je chantais, en fait, ce que je devais jouer. Parce que ce que je peux pas le chanter, ce que je ne peux pas chanter, si je pouvais pas le chanter comme ça, eh bien, je peux pas le reproduire après sur mon instrument. Tandis que si je chante mentalement ce qui se passe, si je peux chanter plus ou moins le trait, eh bien, après, je vais pouvoir le refaire dans les mains, dans les doigts. Je saurai comment ça va se placer visuellement sur le clavier, par exemple. Je parle de visuel au niveau du piano, mais pour la guitare, c'est pareil. Enfin, c'est pas visuel, la guitare, c'est autre chose. Mais donc, je rechantais, en fait, les choses à chaque fois depuis le début. En me disant, OK, si je me trompe, eh ben je reprends depuis le début. Et donc, au bout d'un moment, eh ben forcément, je ne me trompe plus. Parce que j'ai l'habitude de à chaque fois faire le truc sans me tromper.
Donc, tu conseillerais aux personnes de s'entraîner vraiment à chanter
Oui.
l'ensemble. Et bien sûr, si elles doivent chanter cinq partitions, elles vont travailler une demi-partition par demi-partition et de temps en temps les enchaîner en complet. Il faut toujours segmenter pour pouvoir même travailler. Et
Voilà, il faut
après, on passe les
segmenter.
passages.
Ouais, c'est ça. Il faut
D'accord.
segmenter.
Parce qu'on ne peut pas
Exactement.
chanter, on ne peut pas le jouer. C'est comme
Non,
ça.
c'est impossible. Impossible. Ce qu'on ne peut pas chanter, on ne peut pas le jouer.
Je suis d'accord, parce que ce qu'on arrive à faire de tête, c'est la programmation de ce qu'on fera avec le corps ensuite. Donc, mais
Voilà. A
c'est
priori,
intéressant
ce que
d'entendre.
nos mains vont faire, c'est ce que notre cerveau aura décidé de faire. Donc, on doit d'abord passer par le chant et par le mental avant de le faire au niveau de l'instrument. Et beaucoup de gens font l'inverse. Essayent de faire le mouvement sans comprendre ce qui se passe, en fait. Sans pouvoir chanter, sans entendre la mélodie. La première chose que j'apprends en fait à des stagiaires, parce que je donne des cours de groupe dans lesquels il y a basse, batterie, piano, etc. La première chose que je fais avec tout le monde, c'est que je fais chanter tout le monde, toutes les parties du morceau. Les pianistes chantent la basse, les batteurs chantent la mélodie, les guitaristes vont chanter la mélodie et la basse. Ils vont pas forcément jouer, mais ils vont tout chanter. Je leur apprends à chanter toutes les couches de la musique. Et après, une fois qu'ils entendent ça dans la tête, ils vont apprendre leur partie. Et c'est ça qui fait qu'après, on va pouvoir faire un groupe. Parce qu'on a une vision globale de la musique. Et ça peut paraître quelque chose comme, ah, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est faux. C'est l'inverse. C'est de ne pas faire ça qui prend beaucoup de temps.
Je pense que beaucoup de gens gagneront à faire ce que tu ah bah à suivre tes cours tout simplement et justement en parlant de tes cours donc sur ton blog sur donc tu proposes bien évidemment des cours pour apprendre la batterie. Ça s'adresse exclusivement à un public ou tu enseignes des choses qui sont pour les débutants qui veulent progresser jusqu'au niveau intermédiaire, mais tu enseignes aussi pour des experts qui veulent vraiment peaufiner une expertise dans un domaine précis. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu proposes en fait comme formation sur ton blog Batteur Pro?
Alors, à l'heure actuelle, je propose deux types de formations. Donc, il y a une formation. Donc, à chaque fois, c'est pour tous les niveaux. C'est-à-dire que Ce que je constate, c'est que quelle que soit l'étape où on se trouve, eh bien, chaque type de musique peut être adapté pour tous les niveaux. Okay. Bon, alors évidemment, un 5-8, c'est plus difficile à jouer quand on n'a jamais fait de musique qu'un 4-4. Okay. Mais donc j'ai deux formations. J'ai une formation sur la musique indienne appliquée à la batterie, c'est-à-dire sur le konokol et la manière dont on va jouer des polyrythmes sur la batterie, mais qui est adaptée de nouveau à tous les niveaux. C'est-à-dire que je prends à la fois des débutants, mais des gens qui sont très avancés. Parce qu'on peut en fait prendre un principe et le simplifier à l'extrême. C'est toujours le même principe, mais il va être adapté aux débutants. Et d'une autre manière, bah, si on prend ce même principe et qu'on le complexifie, c'est-à-dire qu'on rajoute en fait des choses, bah, ça va être adapté aux gens qui sont très avancés. C'est tout le temps le même principe. Et donc, bah, je vais enseigner X principes différents qui seront adaptés à tous les niveaux. Okay? Donc ça, j'ai une formation sur le konokol qui est vraiment faite pour apprendre à ressentir le rythme instinctivement. Et j'ai une seconde formation qui, elle, apprend justement à chanter. Alors, je ne fais pas toutes les voix, toutes les mélodies, mais j'apprends à chanter des lignes de basse. Parce qu'en fait, sans ligne de basse, on ne peut pas en fait créer des rythmes de batterie. Donc, c'est toujours dédié sur la batterie. J'apprends à chanter des lignes de basse. Et ensuite, une fois qu'on apprend ces lignes de basse par cœur, j'apprends à créer des rythmiques. Comment est-ce qu'on va créer tel rythme au niveau d'indépendance pour que ça colle avec la basse? Ça, c'est la seconde formation que je donne online et que je viens de lancer là il y a quelques semaines en fait.
Ok,
Donc voilà.
d'accord. Et tu proposes aussi des cours de batterie, des coachings
Alors je proposais pas encore de coaching, mais je propose des coachings là, ouais, effectivement depuis quelques semaines. Donc des coachings distants, ce genre de choses aussi, ouais.
Donc c'est pour les batteurs, par exemple, qui ont qui voudraient évoluer sur une thématique précise ou qui ont un blocage. Tu arrives à voir où ils en sont et ce qu'ils n'ont pas encore remarqué qu'ils auraient besoin, par exemple. Enfin,
Ouais.
c'est vraiment. C'est pas la logique d'un cours où tu fais évoluer quelqu'un sur des années. C'est vraiment, OK, je vois comment tu pourrais passer le cap que tu veux passer et je vais t'aider à faire ça précisément. C'est cette
Oui,
approche.
c'est ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est très efficace parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, en fait, savent tout de suite ce qu'ils doivent faire, mais ils sont aussi tout de suite mis en confiance dans le sens où, ah, mais je comprends pourquoi ça marchait pas, ce truc que j'essaie depuis des années. Et donc, du coup, comme ils mettent le doigt sur le truc qui marchait pas, ah ben c'est beaucoup plus facile de passer au-dessus de cette éventuelle frustration qu'on va avoir. Enfin voilà quoi. Moi ce que je constate c'est que souvent les gens progressent beaucoup plus vite dès qu'on met le doigt sur quelque chose. Non pas parce que on va se sentir nul ou mais non parce qu'on sait ce qu'on doit faire en fait, c'est tout.
Excellent. Eh bien, merci beaucoup à toi, Xavier, pour ce partage, pour cette interview qui est extrêmement intéressante. Et je te souhaite une excellente continuation et j'espère que tu feras un programme pour tous les musiciens pour apprendre la polyrythmie appliquée à n'importe quelle musique. Merci beaucoup, excellente continuation et au plaisir de rééchanger avec toi, peut-être sur d'autres sujets un jour.
Ok, merci, super.
Voilà, j'espère que vous avez appris autant de choses que moi dans cette interview. Et pour poursuivre votre découverte d'astuces et de concepts qui vous permettront de mieux apprendre un instrument de musique, je vous invite à visiter mon blog wemusic.coach et notamment l'article qui s'intitule Pourquoi